Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Chant contre Chant, émission mensuelle sur le cinéma réalisée sur fréquence protestante par l'association Profil. Cette émission sera présentée par moi-même, Jacques Champeau, et animée par Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour tout le monde.
Par Jean Wilkowski, bonjour Jean.
Bonjour à tous.
Et par Jean-Michel Zucker, bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Alors l'influence des Oscars se fait sans doute sentir à cette période de l'année, car notre choix de ce jour sera très anglo-saxon, avec deux films américains et un film anglais, ou en tout cas qui se passe en Angleterre. Nous parlerons d'abord du dernier film du légendaire Clint Eastwood, La Mule, puis d'un autre film américain, Green Book, de Peter Farrelly, et nous terminerons par la favorite de Yorgos Lanthimos. Alors commençons par La Mule. On ne présente évidemment pas Clint Eastwood, l'inoubliable héros de Sergio Leone, puis l'interprète de l'inspecteur Harry, avant de passer derrière la caméra dès les années 70 et de nous donner depuis 40 ans de nombreux chefs-d'œuvre. Pour certains, il reste même le dernier représentant du grand cinéma hollywoodien. Et pour son nouveau film, nous le retrouvons comme acteur et dans un rôle taillé à sa mesure de vieil Américain solitaire. Son personnage, Earl Stone, a plus de 80 ans, il s'est éloigné de sa famille et il est aux abois. Son entreprise de culture de fleurs est au bord de la faillite. Il accepte alors un boulot de chauffeur, simple en apparence, mais qui consiste en fait à passer de la drogue pour un cartel mexicain. Il réussit très bien dans son nouveau job et transporte des cargaisons de plus en plus importantes, ce qui va l'amener à être surveillé aussi bien par ses commanditaires que par la police des stupéfiants. Alors, avec tout le monde à ses trousses, Earl Stone va-t-il s'en sortir ? Jean, est-ce que Clint Eastwood nous fait toujours vibrer ?
Enfin, en tous les cas, moi, oui. Et comme tu viens de le dire, Jacques, ce film retrace l'histoire d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale devenu passeur de drogue. Mais en fait, c'est toujours Clint Eastwood qui est à l'écran dans ce vrai road movies et faux thriller. Nous ne pouvons pas nous empêcher de voir dans le personnage de Earl le cow-boy lumineux de l'homme des hautes plaines ou encore le déjà vieil homme de Gran Torino, dernier film d'Eastwood où il est, comme pour celui-ci, à la fois devant et derrière la caméra. Très vite, nous désintéressons de l'intrigue du film. Il faut dire que les personnages, à part Earl Stone, sont caricaturaux et prêts à rire. Les narcotrafiquants mexicains qui doivent accompagner Earl sont brutaux à l'extrême et les fêtes orgiaques qu'organise le boss de la drogue sont plutôt hilarantes, avec ses prostituées qui se déhancent, manifestement pour le plus grand plaisir de Clint Eastwood. Du côté des forces de l'ordre, c'est pas mieux. L'agent du bureau des stupéfiants n'est vraiment pas bon. Et chaque fois qu'il arrête un suspect, cela tourne à la farce.
Oui, c'est vrai que les personnages sont tous un peu ridicules.
Mais heureusement, il reste Clint Eastwood, omniprésent, qui parcourt le film avec sa dégaine de vieux réac sudiste, pas très futé, et dont les aventures nous font rire bien souvent. « Tu ne te fais jamais traiter de connard ?» lui demande dès le début du film un de ses collègues. « Tout le temps !» répond Earl. Le ton est donné. Il qualifie de nègre un couple dont la voiture a crevé et qu'il entreprend d'aider. Il montre aussi une attitude bienveillante à l'égard d'une bande d'homosexuels féminines à moto, même s'il les insulte. Les deux Mexicains qui l'accompagnent sont, dit-il, comme deux haricots rouges dans un champ de maïs. Tout le film montre énormément d'humour et n'est jamais vulgaire. Earl est aussi fâché avec une nouvelle technologie, Internet et la banque en ligne, qui a entraîné la faillite de son entreprise, mais aussi avec les téléphones portables et la rédaction des SMS. Le réalisateur se moque alors gentiment des vieux dont il est.
Oui, alors il y a quand même aussi le côté famille de Earl qui est assez important dans ce film.
Oui, c'est vrai, mais pour moi c'est un peu le point faible du film, car les relations de Earl avec sa femme, sa fille et sa petite-fille sont un peu convenues. Et sa réconciliation avec sa femme sur son lit de mort est vraiment tirée par les cheveux. Mais c'est pas le cœur du film, qui reste le plaisir que nous donne Clint Eastwood. Notons quand même que la musique qui joue un rôle important, car au volant de son pick-up, Earl naturellement écoute de la bonne musique folk et jazzy, et là aussi c'est un régal. La morale du film est donnée par les premières images et les dernières. Earl, tel Candide, cultive ses lys d'un jour. La sagesse, enfin, à 88 ans.
Ah. Beau sujet. Marie-Jeanne, alors. Tu as aimé ce film ou pas ?
Oui, j'ai bien aimé ce film. Je suis tout à fait d'accord pour les personnages secondaires qui sont parfois un peu excessifs. Mais enfin, le film tient essentiellement par Clint Eastwood.
Ah oui,
Il est magnifique. Il a une forme là de recul, d'autodérision. Surtout un vieillard serein qui n'a plus peur de vieillir et qui montre toutes ses fêlures, ses rides, enfin, et qui donne au film d'ailleurs un rythme lent, un peu désabusé, mais il est là. Et vraiment, c'est un grand plaisir. Et puis surtout, je voudrais insister sur les photos du film. La photo du film a été faite sous la direction de Yves Bélanger, qui a travaillé notamment avec Xavier Dolan et Jean-Marc Vallée, et qui nous donne des lumières qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les films de Clint Eastwood, où on a toujours beaucoup de crépuscule. Mmh. Là, ce sont de très belles avancées dans l'Amérique.
Oui, absolument. Oui.
Et enluminées de soleil. Enfin, les paysages sont très, très beaux. Alors, c'est un peu répétitif.
Oui,
hein, premier voyage, deuxième voyage, troisième voyage, quatrième voyage.
Oui, c'est... Bon, okay. Il en rajoute un peu.
Il en rajoute. Mais le plaisir de le voir est vraiment très...
Oui, je crois que c'est ça. En fait, le film, c'est lui, quoi.
Il n'a pas perdu son charme auprès des dames.
Ah non,
Même à 80
Mais même en plus, il en a plus, parce qu'il devient plus apaisé, on dirait.
Alors Jean-Michel, tu es aussi sous le charme ou un
non,
peu moins?
Pas du tout, non, je ne suis absolument pas sous le charme. Je regrette parce que j'aime bien Clint Eastwood d'habitude, mais là c'est un festival Clint Eastwood, mais d'un Clint Eastwood qui est un petit peu, à mon sens, sénile. Pour moi, c'est le film de trop.
C'est méchant.
C'est le film de trop. Il y a beaucoup de déjà-vu.
Il y en a un autre après.
Il y a beaucoup de déjà-vu dans ce road movie qui est, à mon sens, répétitif, longuet. Un scénario et même une photographie, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marie-Jeanne, qui me paraît sans inventivité, avec des personnages sans relief. Pourquoi se met-il à faire la mule au lieu de continuer à cultiver son jardin?
Il est en faillite.
Oui, uniquement pour de l'argent.
Oui,
et se racheter aux yeux de sa famille.
Mais
c'est pas convaincant.
C'est le prétexte qu'il donne, en tous les cas.
Le milieu de la drogue est très conventionnel et sans aucun intérêt. La seule chose que je sauve dans ce naufrage, c'est la relation avec l'agent Bates, qui est à ses trousses, à la fin. Mais c'est quelques minutes seulement.
Oui.
Et j'en suis désolé.
Oui, t'es un peu sévère, me semble-t-il.
Moi, je suis un petit peu entre les deux. J'avoue que j'ai trouvé quand même le début du film un peu paresseux. C'est pas...
Il prend son temps.
Il prend son temps. Les voyages à répétition sont quand même un peu ennuyeux. C'est vrai qu'il reste Clint Eastwood, mais bon, même lui paraît un peu fatigué aussi, quoi.
Un peu chevrotant.
Voilà. Et puis j'ai trouvé que progressivement, effectivement, avec l'arrivée, avec la relation avec le policier, avec quand même, moi je suis pas tout à fait d'accord avec Jean, je trouve que la relation avec la famille, alors elle est un peu mélo. Mais elle introduit
elle
un peu
de forte quand même.
Mais voilà, et elle introduit un peu de profondeur au personnage. Ce qui fait que le film, c'est un petit peu un film un peu testamentaire, quoi. Oui. On le voit un peu comme ça. Donc, bon, c'est pas le meilleur des Eastwood, hein, mais c'est un film qui se voit bien.
Qui se voit volontiers.
Voilà. Et dans le rythme quand même, où la tension dramatique accélère quand même au bout de, je dirais, la première heure.
Bon,
la première
c'est vrai que dans 20 ans, on s'en rappellera vraisemblablement plus.
Oui, par rapport à d'autres.
Mais on en garde un bon souvenir quand même.
Oui, et puis il y a des...
Mais
même effectivement, si les voyages en pick-up sont un peu répétitifs et ennuyeux, on a des paysages qui sont assez variés, qui sont beaux, avec une certaine mise en scène astucieuse, les voitures suiveuses, etc. Donc, bon, il sait faire, hein, il sait encore faire, mais bon, c'est peut-être un peu plus lent que...
On peut pas dire que c'est un film brillant.
Non,
ça
n'ajoute rien à sa gloire.
Et puis,
mais on le voit avec plaisir quand même.
Oui,
non,
on le voit
avec plaisir quand même. Et puis, il y a aussi un certain visage d'une classe moyenne américaine aussi qui est un peu en déroute, qui a du mal à s'en sortir, qui n'est pas inintéressante parce qu'au fond, effectivement, son entreprise de fleurs ne marche pas très bien. Hein, bon, voilà.
À cause d'Internet.
Donc,
à cause d'Internet.
Bon, alors on va passer à un autre film américain qui est Green Book de Peter Farrelly. Alors, Peter Farrelly est connu, en fait, pour avoir réalisé depuis 1990, avec son frère Bobby, une dizaine de comédies de style potache, à l'humour un peu lourd, mais de très grands succès commerciaux. Son nouveau film qu'il a réalisé seul est d'un tout autre genre. Il nous plonge dans l'Amérique de 1962, alors que règne encore la ségrégation dans les États du Sud. Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, vaguement raciste, est engagé pour conduire et protéger Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de concert. Et le concert dans le Sud. Et donc, durant leur périple de Manhattan jusqu'au Sud profond, il s'appuie sur le Green Book. Alors, je ne connaissais pas le Green Book, c'est une sorte, semble-t-il, à l'époque, de guide Michelin spécialisé qui permet de dénicher les établissements qui accueillent les personnes de couleur et où l'on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Nous sommes pourtant dans les années 60. Alors Jean-Michel, comment cette histoire de départ, somme toute assez classique de deux hommes que tout oppose, est-elle exploitée ?
Tout d'abord, il faut se rappeler que ce film est aussi un acte de piété filiale, puisque le co-scénariste avec Farrelly n'est autre que Nick Vallelonga, le propre fils de ce Tony Lip, dont l'amitié avec Don Shirley a bercé son enfance. De ce fait, le road movie impeccablement conduit raconte l'histoire d'une amitié improbable entre deux personnes radicalement différentes, comme tu l'as dit, un prolétaire immigré d'origine italienne et un membre de l'élite afro-américaine. Mais au lieu d'un film dans la norme délivrant un discours antiraciste moralisateur, ce pamphlet étincelant d'en avoir au sudiste un monde inversé où c'est le blanc qui est en situation apparente d'infériorité au service d'un noir artiste raffiné qui leur semble un parvenu et excite encore davantage leur haine.
Alors le scénario tient quand même dans cette amitié improbable. Donc comment elle peut naître et se développer, puisque c'est le cœur du film.
Oui, au cours des étapes picaresques, tragiques, comiques, mais grinçantes qui ponctuent ce chemin de croix de ce nouveau chevalier à la triste figure assortie de son sang chaud pensant, c'est en effet une véritable amitié qui se construit et s'approfondit tandis que les contrastes de leur comportement s'adoucissent. Tony Lip, c'est-à-dire la tchatche, pétri de préjugés racistes et bruts de décoffrage, et Don Shirley, l'intellectuel cultivé, un tantinet méprisant, s'humanisent au contact l'un de l'autre et le réalisateur déploie avec subtilité l'avènement de leur complicité au fil des épreuves. Alors qu'on pouvait craindre un numéro de duettiste tenté par le cabotinage, Viggo Mortensen, l'acteur de Peter Jackson et de David Cronenberg, donne toute son authenticité au personnage de Tony Lip et Mahershala Ali sa distinction à celui de Don Shirley. Si ces deux-là sont omniprésents, les attendrissantes relations conjugales de Tony et de sa tendre épouse Dolores imprègnent en filigrane les 4 mois de séparation du couple et contribuent au sentiment de bonheur et d'émotion que procure le film. Celui-ci est aussi porté par le rythme que l'auteur impulse à un film qui fait alterner de façon fluide, sans insistance et sans temps mort, les scènes opposant dans l'auto Tony et Don Shirley et les événements scandaleux mais ridicules qui les soudent sur leur parcours. Cette mise en scène culmine avec le contraste entre l'ultime clash de la tournée officielle et la jubilation d'une fraternisation noire sublimée par la musique.
C'est un beau film, effectivement. Alors, Marie-Jeanne.
Oui, écoutez, là encore, je n'irai pas contre Jean-Michel du tout. J'ai adoré ce film. J'ai trouvé qu'il était, toutes les qualités qu'il a données. Mais en plus, ce qui est très intéressant, c'est cette inversion dans les rapports sociaux de l'époque. On est quand même en quelle année ? On est dans les années
62.
Voilà. Oui. On est en 62, donc en plein moment
de ségrégation,
de la ségrégation,
oui.
À son pire.
Ah bah, ségrégation dans une partie des États-Unis.
Oui, surtout
il y a le contraste
surtout,
très fort,
oui,
fort
entre le Nord et le Sud, le
entre les États ségrégationnistes le et les autres. Hein.
Mais l'inversion se fait non seulement parce que c'est le noir qui donne, qui est conduit, qui donne des ordres, qui paye, bon, ça. Mais aussi inversion en ce sens que le noir ne correspond pas du tout à l'image que se fait le blanc moyen, le petit blanc de ce que doit être un noir. C'est un être au contraire raffiné, précieux.
Oui, il en fait même presque trop.
Oui, presque trop. Enfin, il n'a jamais mangé de poulet avec ses doigts.
On a du mal à le croire.
Néanmoins, voilà, il ne correspond pas du tout. Et donc, il suscite d'autant plus la haine. Et d'autant plus qu'il fait partie d'une minorité sexuelle. Qui était très mal porté et dans son milieu et de manière générale à l'époque. Donc cet aspect-là est très intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant justement, c'est cette amitié, mais cette amitié qui fait que les autres, l'un et l'autre ne changent pas, mais au contraire s'ouvrent à l'autre. Et finalement, c'est une ode d'espérance parce que on peut se dire que le racisme ordinaire peut être combattu par la culture, le cœur, l'humanité.
Ou simplement quand les gens se rencontrent.
Oui.
Ils se connaissent.
Oui, c'est ça.
Jean ?
Oui, ben, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce film. Je pense que c'est difficile d'ailleurs de ne pas l'aimer. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de voir qu'on part de deux personnages diamétralement opposés. Et tout à fait contraire aux normes classiques. Hein, c'est le noir qui est cultivé, qui est de la côte est, qui est bien. Et d'ailleurs, une des scènes, moi, qui m'a le plus frappé, intéressé, c'est quand Don descend de voiture et voit ces pauvres travailleurs noirs dans les champs. Et on voit effectivement la différence entre un noir comme Don et les Noirs comme ils étaient en 1932.
Et en même temps, ceux qui sont dans les champs le regardent la voiture de manière médusée.
Ils sont complètement ahuris.
C'est une très belle scène.
Et je pense que c'est une très belle scène parce que ça traduit vraiment ce qu'étaient les Noirs en 1932.
C'est-à-dire l'esclavage.
L'esclavage. D'ailleurs, ils s'arrêtent de travailler pour venir
voir. Ils sont tellement épatés de voir un nègre comme ça qu'ils en sont épatés. Et d'autre côté, Tony aussi est un personnage intéressant parce que Tony, il n'est pas vraiment raciste. C'est un Italien.
Au début, il est raciste.
Non. Il a le racisme de sa classe.
Oui, c'est un Italien.
Ordinaire.
Oui, tout à
c'est
fait.
Un Italien qui débarque.
Oui, et finalement, il n'a jamais tellement réfléchi.
Et surtout, il est tout à fait content d'avoir des gens qui sont en dessous de lui. Comme il n'est pas très dans l'échelle sociale, il n'est pas très élevé. Et pour lui, il est noir, c'est en dessous de lui.
C'est le ressort du racisme.
C'est le ressort du racisme, mais c'est un racisme uniquement de convention. C'est pas un racisme. D'ailleurs, la preuve, c'est que finalement, ils deviennent copains. Et donc, l'avantage de ce film, c'est qu'il n'est pas maniqué. Hein. Il est bien foutu, quoi.
Oui, les personnages sont assez complexes, enfin plus complexes qu'il n'y paraît au début.
Absolument.
Au début, on a un petit peu l'impression, hein, dans les premières demi-heures...
On a un peu peur, presque.
Le début est un peu lent, d'ailleurs, là aussi, c'est sans doute volontaire. Effectivement, on a un peu l'impression de personnages un peu schématiques, quoi. Mmh. Progressivement...
Ils se complexifient.
Oui,
absolument.
Et une des dernières scènes où ils se confrontent, là, ils éclatent finalement tous les deux Tony reproche finalement à l'autre d'être d'avoir beaucoup plus réussi en fait. Hein.
Oui.
Et qu'au contraire, Don Shirley dit j'ai réussi, mais du coup je suis tout seul.
Voilà.
Parce que je n'appartiens pas aux blancs.
Et il n'appartient pas aux noirs.
Mais j'appartiens pas non plus aux noirs qui m'ont rejeté. Donc cette solitude est assez intéressante, j'ai trouvé.
D'ailleurs, il dit une phrase terrible : pas assez blancs, pas assez noirs, pas assez hommes. De lui-même.
Ce qui fonde leur amitié dès le début, et le réalisateur le montre très bien, c'est l'estime réciproque qu'ils ont. Même si au début, elle est ténue et qu'elle va s'amplifier au fur et à mesure qu'ils se connaîtront mieux.
Mmh. Moi, ce que j'ai trouvé aussi, tu l'as dit Marie-Jeanne, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'au fond, il y a un côté très fictionnel, même si c'est à partir d'une histoire réelle, qui fait qu'on ne s'ennuie pas un instant. Et en même temps, le film profite de cette fiction pour nous montrer des tas de petits faits, enfin de petits ou gros faits, hein, de petites anecdotes qui montrent l'état où étaient finalement certains états des États-Unis à cette époque. C'est quand même pas si vieux que ça. Enfin, je veux dire, on est en 1960 et un noir ne peut pas manger dans un restaurant ou utiliser les toilettes des blancs. Ou essayer un costume dans le truc. Donc c'est quelque chose quand même qui est à la fois traditionnel et
il n'y a pas si longtemps que ça.
Alors l'autre chose que j'ai beaucoup aimé moi dans ce film, c'est la façon dont il filme et les couleurs qui rappellent l'époque. Alors je ne sais pas s'il y a un une couleur spéciale de pellicule qu'il a utilisée, enfin de pellicule entre guillemets, mais je trouve qu'on se croit dans les tonalités, les couleurs des voitures, etc., des films des années 60. Quoi. Donc ça, c'est assez bien fait aussi, la reconstitution est assez, j'ai trouvé, efficace. D'autres remarques sur ce film qui nous ont fait consensus?
Allez le voir.
Un film très grand public, et très intelligent, donc oui. C'est à souligner.
Tout
et
à fait.
Donc n'hésitez pas à aller le voir. D'ailleurs, je crois qu'il a pas mal de succès.
Et qui a surpris dans la filmographie des deux frères.
Ah ben complètement, parce que c'est pas du tout ça qu'ils avaient fait jusqu'à présent.
D'habitude, non.
Bon, alors, nous allons avoir notre petite pause musicale. Alors nous reprenons notre émission Chant contre chant, diffusée sur Fréquence Protestante, avec notre dernier film, La Favorite, du grec Yorgos Lanthimos. Alors Yorgos Lanthimos a ses fans, dont je fais partie d'ailleurs, mais aussi ses détracteurs qui lui reprochent, non sans quelques raisons, un excès de sophistication et des scénarios souvent bizarres. Avec La Favorite, il s'attaque à un genre complètement nouveau pour lui, le film historique. Le film nous plonge en effet dans la cour de la reine d'Angleterre, la reine Anne, au début du XVIIIe siècle. L'Angleterre et la France sont en guerre, ça leur arrive assez souvent à cette époque, et la reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays en fait à sa place. Et lorsqu'une nouvelle servante, Abigail Hill, aux racines aristocratiques mais ruinées, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile pensant qu'elle pourrait être une alliée. Mais, alors que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Ce qui, évidemment, ne va pas manquer de déclencher une lutte à mort entre les deux rivales. Alors, Marie-Jeanne, as-tu été éblouie par cette histoire royale ?
Alors, je n'avais pas du tout aimé les derniers films de Lanthimos.
Ça commence mal.
Pas du tout. Mais La Favorite a été une bonne surprise. On y retrouve certes la férocité, le goût du réalisateur pour étudier la noirceur de l'âme humaine, pour la satire noire, mais en beaucoup moins conceptuel. Cette fois-ci, Lanthimos s'ancre dans la réalité historique. Nous sommes, tu l'as rappelé, à la cour d'Angleterre, sous le règne de la reine Anne, qui a duré de 1702 à 1714. Alors, dans une reconstitution fidèle de l'époque, avec des décors et des costumes somptueux, le réalisateur nous a brossé, non sans humour, une fresque terrifiante, au vitriol, de cette société grotesque, triviale, élégante et grossière, qui vit en vase clos dans ce château. Il s'attache surtout à décrire la férocité qui règne autour de cette reine pour la lutte du pouvoir auquel se mêlent sexe et sentiment.
Mais assez curieusement, en fait, cette lutte pour le pouvoir semble réservée au sexe féminin.
Oui, ce qui est particulier
ici... Ça
va
plaire, d'ailleurs.
Oui, tu vas voir. Ce qui est particulier ici, c'est que cette lutte est menée par deux femmes, effectivement, Lady Sarah Marlborough et Abigail Hill, remarquables Raquel Welch et Emma Stone, autour d'une autre femme, la reine, qui est magnifiquement incarnée par Olivia Colman. Alors, les hommes sont insignifiants, bouffons, ridicules... serviles, puérils, qui passent leur temps à jouer à la course au canard et au lancer d'orange. Il y a vraiment quelque chose de pourri dans ce royaume. Ils sont souvent d'ailleurs filmés en gros plan, avec une certaine cruauté, de manière à rendre leur visage plus grotesque encore. En revanche, les femmes sont fortes, intelligentes, ambitieuses, calculatrices, perfides et manipulatrices. Ce n'est pas nécessairement à leur avantage, car elles usent des mêmes armes que les hommes dans ces circonstances. Avec une différence toutefois, on apprend en effet que Le père d'Abigail Hill était un noble désargenté qu'il a vendu pour éponger ses dettes. Ce qui en dit long sur la condition des femmes à cette époque, et puis ce qui éclaire également d'un jour quand même particulier sa soif de réussir, de sortir de sa condition au besoin en piétinant sa cousine qui l'a mise en place.
Alors, tu ne parles pas de la reine, mais c'est quand même le personnage principal.
Ah, la reine. La reine, elle est dépeinte comme un être à la limite de l'idiotie. Certainement certainement pas faite pour le rôle qui devrait être le sien et qu'elle laisse à Lady Sarah. Elle est grossière, géniarde, douloureuse.
Souffreteuse.
Elle mange de manière dégoûtante et vraiment n'a rien d'aimable. Elle est même consternante. Mais subtilement, tout au long du film, on se prend à la voir sous un angle plus humain, à comprendre son immense solitude et sa touchante mélancolie. Elle révèle ses fêlures. En effet, elle a perdu tous ses nombreux enfants, c'est, je crois que 17 qu'elle a remplacés par des lapins qui vivent auprès d'elle.
Mais Lanthimos reste fidèle à lui-même. Que penses-tu de sa mise en scène ?
Alors, la mise en scène est riche et efficace. Il a utilisé tous les procédés cinématographiques pour accentuer son propos. Utilisation du grand angle, distorsion optique par l'utilisation de l'objectif fisheye, qui n'est pas sans rappeler Stanley Kubrick. Il écrase les personnages, en particulier la reine et ses favorites, dans d'immenses couloirs ou des salles immenses pour mieux souligner leur solitude et leur enfermement. Une photographie magnifique, des lumière douce, sensuelle, donne à ce film une réelle beauté formelle. Et il faut une mention aussi pour la musique qui accompagne parfaitement les situations du film.
Alors Jean-Michel, tu as aimé ou tu es allergique à Lanthimos ?
Non, je suis complètement allergique à Lanthimos. Ah,
définitivement.
Depuis toujours, je déteste ces films. Et celui-là, je le déteste aussi, mais... Mais je reconnais que ce qu'a dit Marie-Jeanne sur la qualité de la reconstitution historique et la peinture de cette lutte pour le pouvoir entre ces femmes me fait mettre un bémol à ma fureur. Néanmoins, si le fond de l'histoire est totalement intéressant, c'est-à-dire une favorite qui est supplantée par une autre qu'il avait attirée auprès d'elle pour essayer de s'en faire une alliée, ça c'est passionnant. Et j'aurais vu une version beaucoup plus austère et intérieure qui m'aurait plu davantage. Quelque chose à la Bresson, par exemple. Mais là,
le Baltive de Mankiewicz.
Oui, mais le traitement cinématographique dont tu as dit le plus grand bien, moi je retourne le gant en disant que c'est vraiment le fait d'un réalisateur qui est m'as-tu vu, qui choisit une version baroque, bizarre pour le bizarre, grotesque pour le grotesque, tordu pour tout dire, avec des effets à l'estomac, des focales déformées,
oui,
des travelling avant-arrière insistants.
Qui servent à rien. En plus.
Mais qui servent à rien, n'est pas Fellini qui veut, en noyant le tout dans une bande-son qui est le sommet de l'horreur. Pour moi, car c'est la mode depuis le Molière de Mnouchkine de faire du détournement musical de la musique de Purcell. Et ça me hérisse le poil.
Alors, ne dis pas de Mnouchkine. Hein.
Je suis un peu comme, surtout comme Marie-Jeanne, j'aimais pas Lanthimos et je l'aime toujours pas.
Ouais.
Parce que je trouve que ce film, c'est. Alors que les trois personnages sont très belles, les trois femmes jouent parfaitement bien.
Oui,
elles sont remarquables. Beau sujet. Mais le film me semble fondamentalement malhonnête. Malhonnête, parce que le réalisateur cherche toujours à nous embrouiller. Jean-Michel a parlé des focales et des fisheye, c'est vrai, et c'est complètement inutile, ça sert absolument à rien. De même, la musique qui est beaucoup trop forte et désagréable. Et puis, il dépeint des... Il y a trop de clair-obscur avec les bougies, il y a des grandes orgues baroques, de la musique tonitruante, la décadence affectée. Par exemple, les hommes jouent à la course au canard, mais les femmes jouent à la course au homard. Hein? Ce qui peut-être pour Apté Lobster, son dernier film, mais c'est aussi ridicule l'un que l'autre. Hein?
Mais elles ne font pas que ça.
Non, elles ne font pas que ça, mais on le cite quand même, c'est un peu ridicule. Oui. Par contre, je voudrais quand même, sur le plan historique, il faut rappeler que Anne, paraît-il, aimait beaucoup son mari, adorait son mari, Georges, qui est mort en 1708 Et Sarah, elle rompt avec Sarah en 1709, donc un an après. Donc je ne sais même pas si même sur le plan historique, je pense qu'il nous,
oui,
il,
non,
il
je,
nous enfume
oui,
un petit
oui,
peu.
Oui, je pense que là, on est sur une... c'est à partir de faits historiques, mais c'est une fiction. Ceci étant, les trois personnages de la reine sont quand même très intéressants et sont assez complexes. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en fait, le combat n'est pas le même. Du côté de Lady Sarah, d'une part, elle veut le pouvoir... Pour le pouvoir, c'est-à-dire pour l'exercer.
Et elle l'a.
Et d'autre part, elle a quand même, elle est liée par une amitié très ancienne avec la reine. Alors que la jeune Abigail, en fait, elle, c'est vraiment son motif est louable hein, de retrouver finalement
une certaine.
C'est vital. Mais en fait, le seul point qui l'intéresse, elle, c'est l'argent, je dirais, et le titre. En fait,
pourquoi il a fait un film historique? Il aurait dû faire un film normal.
On aimerait plus de dépouillement.
Alors,
qu'on aille un peu plus vers les pubs.
Pour la mise en scène, moi je suis entre vous deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je trouve assez réussies.
Comme souvent.
Mais c'est vrai que. Il y a quelques fichailles dont il aurait pu se passer.
Ah oui,
ça, voir un couloir comme ça tordu, c'est pas forcément.
Ça n'apporte pas grand-chose.
Mais je veux dire, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, les premières scènes, par exemple, où vous voyez des hommes qui sont penchés, etc., moi, m'en fait vraiment fait penser au tableau de Hogarth à l'époque. La reconstitution est quand même assez efficace. Bon. On ne sera pas consensuel sur ce film, mais je crois qu'il faut maintenant qu'on passe au coup de cœur.
Cela dit, je ne suis pas une fan. Je ne suis pas devenue une fan de l'Antimos.
Non, mais ça vaut le coup de voir ce film.
Oui.
Bon, Jean-Michel, tu veux nous parler des Drapeaux de papier.
Oui, alors les Drapeaux de papier est un film d'un jeune homme de 18 ans. C'est son premier long métrage après 7 courts métrages. Nathan Ambrosioni, retenez bien ce nom. Qu'il fait avec la ravissante Noémie Merlan, qui est chanteuse et mannequin par ailleurs, et un comédien qui est connu, qui est Guillaume Gouix. Amateur de cinéma d'horreur, ce jeune réalisateur, mais ici influencé par Mommy de Xavier Dolan, il veut écrire sur la liberté alors qu'il est en terminale. Et il tombe par hasard sur un article de Libération décrivant le portrait d'un prisonnier en fin de peine. Les questions que celui-ci se pose vont inspirer le personnage de Vincent dans le film, 30 ans, qui après 12 ans de prison vient retrouver sa sœur Charlie, 24 ans, qui se rêve artiste et peine à joindre les deux bouts. Ces retrouvailles les bouleversent tous deux. Vincent, qui est un peu le monstre de la famille, revient dans un monde qu'il ne connaît plus avec sa colère, avec ses colères. Et sa sœur Charlie est prête à l'aider, mais le père ne veut plus voir ni parler à son fils, la mère est absente. C'est vraiment une histoire simple, sans flashback, portée par des sentiments forts et vrais, tournée dans le milieu familier du réalisateur entre le Var et les Alpes-Maritimes, et dont il résulte un film audacieux, prodigieux, génial, émouvant, bouleversant, criant de vérité, servi par ces deux jeunes acteurs d'une pureté et d'une authenticité de cristal, dont les corps cadrés de très près créent chez le spectateur une empathie folle avec eux.
Allez le voir.
Allez le voir, c'est pas facile, parce qu'il ne se joue que dans
une seule
salle actuellement à Paris, c'est effarant. Ah oui. Mais alors vraiment, c'est un premier film, moi je l'ai vu hier, c'est un premier film qui est remarquable pour un jeune réalisateur comme ça.
Un nouveau dans l'an.
C'est une mise en scène qui est d'une justesse extraordinaire, très pudique, efficace, avec des gros plans, mais ce qu'il en faut. La qualité des dialogues est remarquable, qui disent notamment l'impossibilité de se parler, les petits mensonges, les silences. Moi, je trouve qu'effectivement, sur cette histoire minimaliste, c'est vraiment un très grand film.
Très grand film, d'une grande justesse.
Et vraiment, on peut que conseiller d'aller le voir. C'est une découverte, quoi.
Absolument.
On ira.
Alors, Marie-Jeanne, tu nous parles de « Si Beale Street pouvait parler ».
Oui. Nous sommes à Harlem dans les années 70. Tish et Fonny, qui sont tous deux afro-américains, s'aiment depuis longtemps et envisagent de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, accusé d'un viol qu'il n'a pas commis, est arrêté et incarcéré. Alors avec l'aide de sa famille, Tish s'engage dans un combat acharné pour innocenter Fonny, pour le faire libérer, mais hélas sans succès. Après le lumineux Moonlight, Barry Jenkins nous donne une adaptation fidèle de l'œuvre éponyme de James Baldwin. C'est un auteur américain qui est mort en 1987, qui a été le chantre des droits civiques et qui est adapté pour la première fois par Hollywood, ce qui est très injuste car son œuvre est extrêmement importante tant du point de vue littéraire que pour ses prises de position très engagées pour la cause de ses compatriotes afro-américains. Raoul Peck, d'ailleurs, il faut s'en souvenir, lui a rendu un magnifique hommage dans un documentaire qui s'appelle « I am not your Negro ». Oui. C'est un non-violent persuadé que l'amour sera capable de sauver les Noirs de leurs conditions et de triompher de l'inhumanité et de la haine. Et effectivement, c'est l'amour et la beauté qui inondent de ce film d'un bout à l'autre. Film lumineux, délicat, sensuel, émouvant. L'amour pur et irrésistible de ce couple d'une beauté et d'une innocence sublime. L'amour de la famille de Tiche, l'amour que l'on doit transmettre à travers malheureusement une vitre de parloir. Alors l'ostracisme dont ils sont victimes, loin de séparer les séparer, les soude plus encore. Et le réalisateur insuffle à son film un rythme, une lenteur qui nous amène à vivre pleinement cet amour fou et émouvant avec douceur et mélancolie. Alors on retrouve dans ce long métrage toutes les qualités du réalisateur de Moonlight. Des plans très soignés, des cadrages précis, impeccables. Une caméra qui filme avec sensualité les personnages au plus près et qui nous les rend d'ailleurs si proches et si attachants. Une lumière mordorée qui caresse les visages avec élégance. Les couleurs sont éclatantes, malgré le propos dramatique. Et justement, on s'écrit au réalisateur de n'être tombé dans aucun misérabilisme, ce qui ne nous empêche pas d'être révoltés au plus profond de nous-mêmes par ce racisme qui brise des vies. Mais c'est ce qui fait l'originalité de ce film, tout en douceur, en grâce et en intelligence.
Jean-Michel, je crois que tu l'as vu aussi.
Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis de Baldwin, pour lequel j'ai une grande admiration. Le film m'a aussi fortement impressionné, mais je mettrai un petit bémol. Parce que si la première partie est presque parfaite, avec des scènes fortes, touchantes, des caractères bien dessinés, et qui donnent envie d'aimer ce film jusqu'au bout, mais la deuxième partie, à mon sens, s'essouffle un petit peu et devient un peu guimauve par moment, ce qui est probablement le fait du réalisateur, à mon avis, plus que de Baldwin, l'auteur, bien entendu. C'est dommage parce que les scènes s'étirent un petit peu et la recherche de la femme qui a déclaré reconnaître en phonie son violeur est, à mon sens, laborieuse. Le personnage de Tiche, de toute façon, est nettement plus vivant que celui de phonie, le garçon. Et ça brouille un petit peu le message. La mise en scène avec la narration et les souvenirs qui s'intercalent ne me convainc pas parfaitement du point de vue des temporalités croisées. Mais autrement, je vais dans le sens de ce film.
Oui. Je soutiens. Jean, tu veux nous parler de Minuscule 2 ?
Oui, je vais vous parler d'un film français. Avec Minuscule 2 et les mandibules du bout du monde, Thomas Vabot et Hélène Giraud nous donnent la suite des aventures de leurs trois héros. Leurs trois héros, pardon. Pardon de la liaison malencontreuse. La coccinelle, la fourmi et l'araignée qui avaient fait nos délices dans les épisodes précédents, qui étaient, je le rappelle, une série télé à succès, puis un long métrage couronné par un César en 2015. Ici, les trois amis vont partir au secours d'un bébé coccinelle tombé dans un paquet à destination de la Guadeloupe. Rendons grâce aux réalisateurs qui ont su créer une animation totalement française qui intègre des images de synthèse, les insectes, à des prises de vue réelles, les paysages, les sous-bois et la présence humaine. Cinéma sans parole, mais où deux ronds pour les yeux traduisent l'émotion et encore, ou encore une antenne tremblante diffuse le suspense. Une bande-son très réussie accompagne le mouvement des personnages avec la musique de Mathieu Lambollet, jeune compositeur qui écrit et conduit la partition sur la quasi-totalité du film. Rien que cela ferait déjà un très bon spectacle, mais en plus le scénario est d'une rare inventivité dans le registre de l'animation. Un message de solidarité sur un ton consensuel et drôle nourrit le film avec une touchante romance à la clé. Les relances de l'intrigue sont constantes, les idées et les morceaux de bravure fusent, telle la scène du typhon ou celle qui décourage des hommes de polluer une plage alors qu'ils avaient l'intention de construire un complexe hôtelier avec la complicité de chenilles urticantes. Comme il n'y a pas de dialogue, le divertissement est total et universel et j'attends minuscule 3 avec beaucoup d'impatience. Ah,
comme sans doute beaucoup d'enfants. En tout cas, voilà un bon conseil pour les prochaines vacances. Emmenez vos enfants, vos petits-enfants, voilà, voir minuscule 2.
Mais il faut garder l'âme de sa jeunesse.
Mais bien sûr. Alors, moi, je voulais vous parler des estivants de Valeria Bruni Tedeschi. Alors, si on ne connaissait pas le style très particulier de Valeria Bruni Tedeschi et sa façon bien à elle de mêler autobiographie et fiction, on serait tenté de bouder son dernier film, Les Estivants. Parce que subir pendant 2 heures les bavardages d'une famille riche dans une belle maison au bord de la mer ne paraît pas a priori spécialement excitant. Eh bien, on aurait tort, car ce film entre Tchekhov et Pirandello est à la fois plaisant et intéressant. Il nous emmène dans une réflexion sur la perte, le deuil, le temps qui passe. Les dîners sur la terrasse, les échanges à la piscine ou dans le beau salon font craquer les maquillages et sortir les douleurs et rentrer. Alors, il y a le deuil du fils et du frère, mort 2 ans avant et dont le fantôme erre encore dans les pièces et le jardin. Le deuil d'un enfant avorté pour Elena, la sœur, qui ne l'a jamais pardonné à son mari Jean et qui noie son chagrin dans l'alcool. Le deuil de sa gloire passée pour Jean, entrepreneur ruiné qui joue la comédie du pouvoir alors qu'il n'est plus rien et qu'il vit de l'argent de sa femme. Deuil d'une vieille amie de la grand-mère, dont un vieux ténor était secrètement épris et dont on répand les cendres dans la mer. Et deuil enfin et surtout pour l'héroïne principale, Anna, jouée par Valeria Bruni, qui est d'un grand amour qui est en train de se défaire. Elle ne veut pas l'accepter et ses tentatives désespérées pour garder son mari sont à la fois tragiques et les moments les plus drôles du film. Alors si on ajoute à cela, comme dans toute bonne comédie classique, que l'intrigue se déroule aussi au niveau des domestiques et que les acteurs, la troupe habituelle de Valeria Bruni Tedeschi, à laquelle s'est joint Yolande Moreau, toujours excellent, tous ces acteurs sont très bons, on a une maisonnée un peu folle, mais qui fait passer 2 heures sans que l'on s'en aperçoive. Alors Jean, as-tu autant aimé les estivants que moi?
Oui, je ne suis pas un grand fanat de Bruni Tedeschi, normalement, mais là, franchement, j'ai été très, très agréablement surpris par ce film. Et vraiment, j'ai passé, comme tu dis, 2 heures fort agréables. Et ce que tu racontais correspond tout à fait. Effectivement, on retrouve Tchekhov tout à fait dans cette...
Alors, on parle aussi de Gorky, parce qu'il semble que ce soit admis...
D'accord, mais moi, j'ai plutôt trouvé la cerise ou les trois sœurs là-dedans. Et aussi, ce qui m'a intéressé, c'est le mélange de... Il y a trois strates. Il y a un film, parce qu'elle est en train de réaliser un film. Mmh. On en voit d'ailleurs quelques scènes. Il y a la vie réelle, et puis la vie imaginée, parce qu'il y a finalement des fantômes qui reviennent.
Oui, beaucoup de fantômes
dans ce film. Et ces trois, elle mélange très astucieusement ces trois choses pour faire quelque chose qui est tout à fait captivant.
Oui. Vraiment, alors qu'on s'y attendait pas forcément.
Alors qu'on s'y attendait pas du tout.
Eh bien, je crois qu'est venu le temps de rendre l'antenne. Merci à Marie-Jeanne, Jean et Jean-Michel qui ont animé cette émission. Merci à l'équipe technique qui en a assuré la réalisation. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à qui nous disons à bientôt. Chant contre chant est programmé tous les 4e mardis du mois de 13h15 à 14h. Nous vous donnons donc rendez-vous le mardi 26 mars.